Depuis le 9 janvier dernier, un couvre-feu a été instauré dans la province. Mais ce n'est pas le premier couvre-feu qu'a connu la région. Et on revient ce matin sur les événements entourant la Seconde Guerre mondiale avec M. Fabien Sinette, témoin de ce morceau de notre histoire. Bonjour, M. Sinette.
Bonjour.
Alors, M. Sinette, c'est dans les années autour de 1942-43 que la pointe gaspésienne a connu non seulement la Seconde Guerre mondiale, mais un couvre-feu également.
Oui, le tout débute un peu avec le début de la guerre. La guerre a été déclarée en septembre 1939. Et Churchill, le premier ministre de l'Angleterre, rentre en fonction en 1940, qui était quand même un visionnaire, puis... Il voulait protéger un peu sa flotte, parce que la flotte britannique était quand même forte. Alors, il cherchait un endroit pour abriter cette flotte-là au cas que les nazis auraient envahi l'Angleterre. Mm-hmm. Parce qu'ils s'attendaient à une journée à l'autre là, d'être envahis. Alors, Gatsby avait été choisi à ce moment-là pour bâtir une base navale et faire des fortifications au cas des fois que les sous-marins allemands auraient pu se présenter. Mm-hmm. Alors, là, tout débute en 1941. Tout a été mis en place un peu. La première base navale qu'il y a eu pour la défense, c'était temporaire, c'était sur la pointe O'Hara, où il y a le site historique aujourd'hui. Mm-hmm. Et en attendant qu'ils construisaient la grosse base navale qui avait lieu à Saint-Louis-Beach.
Okay.
Alors, la base, en 1941, cette base-là, sur la pointe O'Hara, ça va quand même de patrouille plus que d'autres choses parce qu'on n'avait pas été attaqué encore à ce moment-là, en 41. C'est là qu'ils ont aussi installé un filet entre la pointe de Saint-Louis-Beach et Penouille pour empêcher les sous-marins allemands de rentrer à l'intérieur de la baie. Mais tout ça est en prévision au cas qu'ils auraient pu être attaqués. Uh-huh. Parce qu'on pensait toujours que la guerre aurait lieu en Europe et non ici sur le sol gaspésien.
Et finalement, il y a des sous-marins qui ont été présents ici dans nos eaux et on a trouvé des épaves de navires marchands.
Oui, c'est ça. En tout et partout, il y a eu, dans le golfe, il y a eu 23 navires qui ont été coulés par les sous-marins allemands. Mm-hmm. Le tout a débuté en mai 1942. Mm-hmm. En 1942, la base navale était encore en construction, mais était sur le point d'ouvrir, d'être inaugurée, je pense, un mois après. Là, cette base navale-là, à Saint-Louis-Beach, c'était quand même gros. Il y avait environ 3000 hommes qui étaient stationnés. Il y avait les corps, les trois corps. Tu avais les aviateurs, les soldats et les marins. Et là, il était organisé avec des corvettes, des bateaux de protection de toutes sortes, ce qu'il appelait les Fairmouths, qui se préparaient vraiment là pour une attaque à ce moment-là. Et en mai 42, ça a eu lieu. Alors, les deux premiers bateaux qui étaient coulés, c'était dans le secteur de Cloridum-Saint-Yvon. Et puis, mais ici, à Gaspé, ben là, on avait commencé à se fortifier. Là, le village était quand même... Et très bien présenté. Alors, il y avait des sentinelles un peu partout sur la pointe. Wow. Et il y avait le couvre-feu qui venait le soir, la brunante, la sirène, avertissait les gens de ne pas être dans les rues. Alors, les seuls véhicules qui étaient vraiment permis, c'était les jeeps militaires qui patrouillaient pour être sûr que les gens observaient les consignes. Et là, c'était vraiment, là, les gens fallait que, ce qu'on appelait aussi le blackout, là, ça voulait dire de boucher tous les fenêtres, avoir aucun espace de clarté. Uh-huh. Ça, il y avait des gens qui avaient suivi des civils du village, qui avaient suivi une formation pour détecter, tous ces choix préservés aussi. S'ils voyaient une lueur, ils cognaient à la porte, puis ils avertissaient les gens de boucher la fenêtre. Là.
Donc, il y avait comme une vigile
vraiment,
qui surveillait.
Bien protégé. Pardon?
Il y avait une vigile qui surveillait un peu pour être
absolument,
sûr
que ce soit
un vrai blackout. Le danger, M. Sinette, c'était que la côte soit aperçue par les bateaux, dans le fond.
C'est bien ça. C'est pas de donner de signal, là, de pas donner de lueur. mais toute la côte gaspésienne était quand même sous surveillance aussi. Il y avait un régiment militaire qui s'appelait les Fusiliers Saint-Laurent. Eux, les autres, ils avaient pour mandat de surveiller les côtes. Mm-hmm. Tout le long de Gaspé Nord, une partie aussi, une partie de Gaspé Sud aussi, mais surtout Gaspé Nord.
Okay.
Alors, il y avait aussi en place là, des postes d'observation, mais aussi il y avait des canons qui avaient été placés à trois endroits différents, à Prévelle, Haldeman et Péninsule.
Oui.
Péninsule, il y a encore les deux canons qui sont là. Ça, c'était tout pour la protection là, du village, là.
Mm-hmm.
Alors, à ce moment-là, tant qu'ils ont commencé à couler les bateaux, les gens, c'était gardé quand même assez secret.
OK, oui.
C'était pas tellement divulgué. C'est sûr, les gens disaient toujours, les autorités de Gaspé à l'époque, c'était juste de la pratique.
OK.
Mais qu'il n'y avait aucun danger, qu'il n'y avait rien, mais c'était pas juste une pratique, il y avait vraiment un danger.
Donc, les gens ne savaient pas ce qui se passait réellement là, dans nos eaux à ce moment-là?
Pas réellement, non. Il y avait des rumeurs, mais les gens ne croyaient pas à ça. Et les Allemands pouvaient venir dans ce coin-ci, là, attaquer les navires ou quoi que ce soit. Parce que le filet avait été mis en travers, en réalité, c'est pour protéger le village.
Ouais.
Parce que, disons, pendant la nuit, que deux sous-marins allemands ont rentré à l'intérieur de la baie de Gaspé, mm-hmm. et qui auront débarqué, ça représentait environ 150 marins armés.
Ouais.
Gaspé n'était pas fortifié encore à ce moment-là. Ils le sont devenus en 42, là.
Ouais, donc il y avait quand même
ça
un danger.
Ça aurait pu arriver.
Mm-hmm.
Ah, il y avait vraiment danger d'une attaque, là. Et puis, là, ils ont commencé, c'est sûr, dans le coin depuis le plus proche de nous autres, c'était Cap Gaspé, dans le coin de Cap des Rosiers. Mm-hmm. Ça y séchait l'année, en réalité, là, toute l'année 42, et au début de 43.
Mm-hmm.
À la fin de 43, là, ils ont commencé à se concentrer sur l'Atlantique.
Mm-hmm.
Parce que ce qui arrivait à nous autres, là, l'idée étant de fortifier Gaspé et avoir des navires de patrouille et tout ça, et des avions, c'était pour empêcher l'approvisionnement vers l'Angleterre.
Exact, on était comme le garde-manger de l'Angleterre pour eux. Là.
C'est justement, oui, l'armement et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on est à se fortifier aussi. Là.
Uh-huh.
Mais il fallait protéger le village. Là. Ils avaient formé aussi un genre de corps militaire de soldats âgés, des gens qui pouvaient pas s'enrôler pour la guerre.
Okay.
Et puis, ces gens-là, ils appelaient ça un home guard. Les autres, ils faisaient de la garde. Ils faisaient quand même des pratiques aussi dans le village. Et il y avait des simulations aussi qui venaient d'attaque. Qui venait de la base navale de Sanubitch, puis atterrissait sur la pointe O'Hara. Et là, il rentrait dans le village, il empêchait les gens de sortir de leur maison.
Ah, oui.
Ça pouvait arriver n'importe quand. Ça, c'était une simulation au cas que les Allemands auraient pris possession du village. Là. Alors, c'était vraiment un état de guerre, là. Il n'y a pas de doute. Là.
Il
y avait des sentinelles partout aussi.
Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre souvenir le plus marquant de cette période-là, à vous, là.
Le plus marquant, en réalité, c'est quand que les deux navires qui étaient coulés à Cap-des-Rosiers, parce que Gaspé était quand même préparé pour des désastres semblables, parce qu'il y avait un poste de la Croix-Rouge avec un groupe de femmes de Gaspé qui avait établi un poste de sauvetage, disons, d'une certaine façon, dans un magasin sur la pointe O'Hara.
Ah oui, sur le berceau, là.
Et, c'est ça. Et puis, moi, j'en ai pris connaissance la première fois. Je revenais de l'école dans l'après-midi, d'environ 3h15, et j'ai vu un gros déploiement militaire devant ce magasin-là. Alors, je me suis rendu là, voir c'est quoi qui se passait. Hein. Malgré qu'on était habitué de voir des militaires patrouiller du village, il y avait un périmètre, on ne pouvait pas rentrer.
Okay.
Puis il y avait des gardiens là, des militaires là armés. Et que je me suis quand même faufilé, un jeune à ce moment-là, je n'étais pas un espion ou quoi que ce soit. Là. C'est là qu'il y a un camion qui est arrivé, un camion militaire. Là, ils ont ouvert la toile en arrière de la boîte là, du camion.
Uh-huh.
J'étais tout près du camion. Et là, j'ai vu tous ces gens-là qui étaient étendus là, sur le plancher. Ils étaient blessés, la plupart des autres. Ils étaient imbibés d'huile aussi, de mazout et de sang aussi, ceux qui étaient blessés. Et ces gens-là, mais ils tremblaient, il y avait froid. Parce que ça avait lieu au mois de septembre, là, à mi-septembre. Ça fait que les femmes en question du poste, je leur donnais du café chaud, des couvertures, de l'habillement aussi autant que possible.
Et c'est marquant comme souvenir.
Pardon?
C'est marquant. Hein? Vous aviez quel âge, puis, M. Sinette?
J'avais 10 ans. Puis dans une dizaine de minutes après, il y a un autre camion qui est venu encore avec encore des survivants, encore des rescapés. Alors, la même chose, il y avait une ambulance militaire aussi qui ramassait les blessés, qui les apportait à l'Hôtel Dieu parce que la Défense nationale avait quand même réservé 50 lits à l'hôpital au cas qu'il y aurait eu un désastre de quelque sorte. Mm-hmm. Alors, les blessés ils étaient emportés à l'hôpital. Il y en a quelques-uns qui sont décédés, là. Ça fait que c'était ça vraiment, là, cette journée-là, là, moi, personnellement, que j'ai pris connaissance qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Puis là, je suis allé voir mon père. Mon père avait une boutique de cordonnerie, là, sur la pointe. Et puis, il lui racontait ça. Il dit, c'est impossible. Il dit, il n'y a pas de guerre ici. Je ne vais pas avoir des rescapés. Il dit, tu vois peut-être trop de films militaires. Je lui ai dit, non, c'est une réalité. Wow. J'ai vraiment vu ces gens-là.
Ah oui, à quel point on n'était pas informés sur ce qui se passait, ils n'y croyaient pas.
C'est ça. Les gens avaient des misères à croire. C'est vrai que les gens du village, quand ces rescapés-là sont arrivés, il n'y avait pas d'adultes autour. C'était le seul jeune qui était autour qui pouvait témoigner. Les autres, c'était des militaires. Mais les militaires, il n'y avait pas le droit d'en parler, plus que ça.
Toute une page de notre histoire, M. Sinette. Bien, merci énormément de nous avoir partagé ça ce matin sur nos ondes.
Ah, ça fait plaisir.
Je vous souhaite une belle journée.
Merci beaucoup. Vous pareil.
Au revoir.